Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Empruntant pour cette séquence le titre d'un de ses ouvrages, nous vous proposons aujourd'hui un voyage rustique avec l'écrivain Charles Sylvestre. Pour cela, nous allons piocher dans les 35 livres de Charles Sylvestre, dans le mémoire de Claudine Cervelle, le Limousin rustique dans l'œuvre de Charles Sylvestre et Charles Sylvestre, chantre du Limousin, une étude parue dans les cahiers Robert Margery, dans plusieurs articles, en particulier de Raymond Détivaux, et dans la préface d'Henri Pourra, à cœur paysan.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
L'encens des blés coupés monte aux voûtes des cieux et la fourche de fer, en mesure, se presse, fouille les gerbes d'or et d'un seul coup les dresse vers les lourds chariots tremblants jusqu'aux essieux. Les braves travailleurs, fixant de tous leurs yeux cette récolte blonde, ont vu, saisis d'ivresse, dans le feu du soleil pesant qui les oppresse, cuire des pains d'espoir en un four merveilleux. Les prémices du sol vont embaumer la grange, c'est l'heure. L'Angélus ouvre ses ailes d'ange, cependant que les bœufs songent à l'abreuvoir. Et le maître, entouré des oiseaux clairs du rêve, penché sur son bâton, écoute au fond du soir le grand cœur du terroir qui bat, gonflé de sève. Ce poème de Charles Sylvestre, Prémisse, est extrait du premier recueil de l'auteur, Paupières closes, publié en 1910 chez Grasset. Charles Sylvestre n'a que 21 ans et pourtant ce texte est révélateur de sa personnalité, de ses passions et de ses croyances. La nature profonde, avec ses champs, ses terroirs, ses oiseaux, le travail qui est bien sûr l'affaire des braves, la sève, les blés, le pain et la terre nourricière, l'encens, les cieux, les anges, l'Angélus, car la vie des hommes est sous surveillance divine, la fourche, les chariots, la grange, l'abreuvoir et la ferme qui est la cellule de vie, le maître. Le maître, enfin, comme le penseur et le sage. Dès son premier ouvrage, donc, les idées sont fixées. C'est la supériorité de la ruralité et la terre quasi divine qui ne ment jamais. Charles Sylvestre est, vous l'allez voir par ce portrait de Georges Goudy, un homme à double face. Ceux qui lisent Charles Sylvestre ne le connaissent pas. Il faut l'avoir vu dans sa maison de Peyrade-Bellac, peuplée comme la boutique d'un antiquaire, des objets les plus curieux. Il semblerait bien d'ailleurs que Charles Sylvestre ait pratiqué en sous-main le métier d'antiquaire. Ainsi que dans les fêtes foraines où il nous entraînait dansant avec toutes les filles, subjuguant les mères par des discours originaux, mangeant comme quatre, buvant comme six, conviant toutes les personnes présentées, ivres de vie, fulgurant, infatigable. Chez lui, il mettait en marche à la fois un phonographe et un appareil de TSF. Et commençait à discourir avec une fureur et une éloquence qui croissaient durant 3 heures, sa voix couvrant le vacarme des musiques mécaniques et de 50 horloges ou pendules qui sonnaient à tous les étages de la maison. Ensuite, pour se rafraîchir, il proposait une promenade à travers champs. Nous pouvons dire qu'une journée passée avec lui était vraiment une aventure merveilleuse mais exténuante. Dans les rues, les lieux publics, il tenait à pleine voix les propos les plus inattendus et les plus insolites, couvrait d'opprobre tous les écrivains morts ou vivants, invectivant contre les gloires les mieux assises. L'instant d'après, il n'y pensait plus. Ou même, aussi bruyamment, il se mettait à proclamer le contraire. On est loin de l'écrivain qui, au printemps 1926, décide d'aller passer la Semaine Sainte avec les moines de l'abbaye bénédictine de Ligugé en Poitou et qui nous en fera le récit dans un ouvrage intitulé « Dans la lumière du cloître ».
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Charles Sylvestre est né à Tulle le 2 février 1889. Son père, d'abord notaire, puis enseignant à l'école française de Moscou, sera par la suite président de l'Alliance française à Téhéran. Charles Sylvestre, lui, avait été confié à la garde de son grand-père maternel, Léonard Marcoux, qui était venu prendre sa retraite à Peyrade-Bellac. On peut dire dès lors que le premier inspirateur de Charles Sylvestre, ce sera Peyrade-Bellac et la campagne environnante, le vieux bourg, la roche Vigeanne ou le pont de l'Anneau. Il a environ 10 ans lorsqu'il vient s'installer à Peyrade-Bellac avec sa mère, une de ses tantes, son frère et ses sœurs. Précisons tout de suite l'importance de la religion dans l'entourage et l'éducation de Charles Sylvestre. Ses tantes ont dirigé une institution religieuse à Sarlat. Son frère deviendra aumônier à l'hôpital Dieu. Sa sœur, après le décès de son époux, entrera dans les ordres. Charles, lui, fera ses études au petit séminaire du Dorat, puis au collège catholique Montalembert de Limoges. Il passe son baccalauréat à Poitiers, puis il s'engage dans l'armée en mai 1908. Il sera cavalier au 21e régiment de chasseurs à cheval en garnison à Limoges. À la suite d'un accident de cheval, il devra renoncer à la carrière militaire. Pendant quelque temps, il travaillera chez un avoué de Bellac, Maître Lagarenne, et en 1910, à 21 ans, il publie chez Grasset son premier recueil de poèmes, Paupières closes. C'est le début de sa carrière littéraire. 16 romans, 7 pièces de théâtre, 2 recueils de poésie, 3 essais, 7 recueils de chroniques, plus de 35 livres et des centaines d'articles. En octobre 1931, il épouse une écrivain catholique connue sous le nom de Jacques Christophe. Avec elle, il résidera à Châtillon de 1934 à 1939, mais il revient vite à Peyrade-Bellac, puis vers la fin de sa vie à Bellac, où il a acheté la tour des Comtes de la Marche, dite tour Genébria. Il y décédera le 31 mars 1948. L'œuvre de Charles Sylvestre est considérable. On compte donc 35 ouvrages, parmi lesquels 16 romans. Charles Sylvestre fut un écrivain prolifique. Par exemple, il publie 3 ouvrages en 1933. L'œuvre fut récompensée par le prix Jean Revel en 1934 pour son roman Aimée Villard, fille de France. Le prix littéraire Paulet de Meursault en 1932. Le grand prix de l'Académie française en 1936. Et surtout, le prix Femina en 1926 pour son roman Prodige du cœur. S'il débute par la poésie et le théâtre, il va très vite s'orienter vers ce que certains appellent le roman rural. S'inspirant à la fois de Virgile, de Guillaumin, de Jules Renard, de Frédéric Mistral, sa principale source d'inspiration c'est Peyrade-Bellac et la campagne de la basse marche. Il a donc écrit et publié 2 recueils de poésie, 7 pièces de théâtre dont L'Aviateur et Molière à Limoges qui furent joués à Limoges, plusieurs essais et chroniques, 16 romans. Parmi ces romans, on distingue 2 périodes. Les romans ruraux où la campagne est la vedette avec ses paysans, ses artisans et ses passions dévoreuses et brutales. C'est le cas de L'amour et la mort de Jean Prado, d'Aimé Villard, fille de France, de Belle Sylvie et surtout du prix Fémina, prodige du cœur. Et puis ceux plus psychologiques ou sociologiques qu'il va publier à compter des années 1930, comme Monsieur Terral, La prairie et la flamme, Le nid d'épervier, Le vent du gouffre ou La roue tourne. Un roman tout à fait original, le dernier, qu'il mettra 5 ans à écrire, Manoir. Néanmoins, ce qui reste et restera le plus des œuvres de Charles Silvestre, ce sont ses chroniques, chroniques qu'il publiait souvent dans des journaux agricoles, mais qu'il regroupa sous forme de recueil. Le Voyage rustique en 1929, Pleine terre en 1931, Au soleil des saisons en 1932, Animaux farouches et familiers en 1933, La vie d'un terrien en 1933 aussi, et Belle France en 1942. Pour les petites et grandes histoires de la basse marche, je fais de nombreux emprunts à ces chroniques. Là, Charles Silvestre nous raconte dans le détail la vie à la campagne et bien sûr les saisons, les travaux et les jours.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son œuvre, la description de la nature tient parfois autant de place que le récit. Le paysage devient un personnage aussi important que l'homme. Le thème rustique semble traité non plus comme un accompagnement, mais pour lui-même, avec une complaisance, j'allais dire, une minutie amoureuse. Sans aucun doute, Charles Silvestre est un des meilleurs peintres de la nature bas-marchoise et de ses saisons. Quand il peint le printemps, nous dit Claudine Servelle, il fait éclater les couleurs, tout fuse, comme un véritable feu d'artifice. Un exemple. Les journées glacées d'or et de cendres blanches sont attisées par le vent du nord. Tour à tour, les arbres des vergers s'allument comme des signaux de plein jour. Les cerisiers élèvent au loin les flammes de neige vivante. Les pêchers et les pommiers semblent tourner en tourbillon de feu rose. Au penchant de la colline, les colzas en fleurs, aussi légers qu'une fumée jaune et verte, annoncent l'ardeur et le doux éclat de l'huile. C'est un extrait de « Au soleil des saisons ». Et dans « Prodige du cœur », il nous parle ainsi de l'été. Le blé fut rentré en bonne condition et entassé sur la barge attendant les bâtaisons. En ce pays, qui est divisé par des haies où s'élèvent des chênes tailladés, la terre apparaissait dans sa nudité, avec ses vallonnements, ses plateaux, où les miroirs d'eau faisaient leur lueur selon le jour. Sur les champs desséchés et comme roussis, la bruyère, les genêts croisaient leurs couleurs. Les châtaigneraies en fleurs formaient au loin de hautes grappes d'or. L'air était plus lourd, mais aux heures torrides, le vent portait un souffle de source. Poursuivons dans l'avancée des saisons, l'automne, toujours dans Prodige du cœur. De grandes pluies sortirent de l'ouest, portées par des nuages pesants qui se succédaient sans cesse. On entendit la mystérieuse marche du vent qui s'en allait si loin qu'il ne faisait plus qu'un murmure. Il revenait avec des grondements dans les chênes qui gardaient leurs feuilles mortes, la dépouille de l'été. Des troupes de corbeaux tournaient sur les châtaigneraies où ils se posaient quelque temps immobiles, l'aile repliée, le bec rabattu, singulier fruit noir. Ils s'envolaient tous ensemble, comme un commandement secret. Du fond de la vallée s'élevait une brume, une grosse nuée blanche qui roulait et que le soleil pouvait à peine dissiper. La tête des trembles de la rive semblait flotter. Il y avait dans l'air des cris qui paraissaient s'élancer des choses. L'appel des bergers se mêlait au bruit de l'eau débordée, au vent, au coup de la pluie. Terminons par l'hiver. Les pluies cessèrent. À l'horizon, une haute porte bleue s'ouvrit. Le beau temps passa. des jours fins, un ciel vif et froid, tel une blanche fleur des neiges. Les bois dépouillés quittèrent leur aspect sordide, cet air de grande misère qui serre le cœur. Leurs branches devenaient neuves, frottées de lumière avec des rayons, des gouttes d'or à leur pointe. L'eau se purifiait, mirant selon l'heure une étoile, un arc de lune, un rameau de saule. Les gelées du matin faisaient une poussière immaculée, et Simon, allant à l'école, s'amusait à briser les petites glaces enchâssées dans les creux de terre durcie et qui éclataient avec un bruit sec.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Charles Sylvestre sait, avec talent, nous peindre la nature bas-marchoise, en particulier celle de la région de Peyrade-Bellac, mais il sait aussi, avec la précision d'un zoologiste ou d'un botaniste, nous présenter les arbres et les plantes, les animaux de notre région. Songez, dans Au soleil des saisons, vous trouverez la description, le récit de la vie des lézards, du loup, de l'écureuil, du blaireau, du hérisson, de la pie, du martin pêcheur, de l'engoulevent et de dizaines et dizaines d'autres. Vous y trouverez aussi des articles avec la même veine littéraire concernant le noyer, l'orme, le châtaignier, le charme et bien d'autres encore. Dans Animaux familiers et farouches, vous découvrirez aussi bien la loutre, le renard, le crapaud que le chat, le grand coq de bruyère ou la poule d'eau. Mais c'est dans Pleine Terre ou le voyage rustique que vous participerez à la vie de Peyrade-Bellac et à sa campagne. Les veillées de février ont eu le cochon, les fenaisons, le temps de la chasse, la pêche à l'étang, le forgeron et le sabotier, le coq dans la prairie ou la pêche à l'écrevisse. Encore une petite description de l'hiver tirée du voyage rustique. Le froid, 1000 couteaux de diamant, 100 rayons, coupaient toute fioriture, tout ornement d'une terre déjà bien lourde, bien nue, du ciel bas, fermé exactement, ne sortait qu'une impalpable poussière grise. Il y avait sur les fossés des grappes de verre, d'étranges fruits. Les feuilles, qu'on croyait mortes, revivaient sous des nervures de cristal. Mais le soleil ne s'allumait pas et les chênes solitaires cherchaient leurs ramilles en aigrette, tendues par un fluide mystérieux. Parfois, un peu de vent apportait jusqu'au hameau de Ballange le craquement d'un miroir d'eau brisé à coups de galoche. La rivière voisine ne faisait plus son murmure.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Certes, Charles Sylvestre ne va cesser de nous vanter le travail de la terre, enfin le travail bien fait, le travail paysan, mais il n'y a pas que les paysans qui soient ses amis. Il y a aussi les vrais travailleurs, que sont les artisans du monde rural, les artisans qui savent prendre leur temps, les artisans qui savent travailler à l'ancienne. Toute son œuvre est un chant de gloire aux tonneliers, aux sabotiers, aux forgerons, aux maréchaux ferrants. Au soleil des saisons date de 1932 et déjà on ne cesse de se lamenter car il y a moins d'amour du métier. Voici ce que nous dit un paysan, un maître, qui se plaint qu'il n'y ait plus de vignes en basse marche, que les fruits sont tout petits. Il y a moins d'amour du métier. On veut tout de suite le profit, mais la peine, on n'en veut pas. Il ne faut pas rechercher la peine, bien sûr, mais c'est la mesure d'un homme. On n'encouragera jamais assez les familles fidèles au sol. Les gens de la campagne, ajoute-t-il, méprisent en secret ceux qui sont partis à la ville. Les paysans, les vrais, eux, n'acceptent pas que l'on ne se donne pas tout entier à la terre nourricière, qu'il faut labourer profond, plus loin que les modes, les opinions et les systèmes. Le travail garde le même commandement. Évolution, révolution, tour et retour ne toucheront jamais que la surface. Les profondeurs humaines ont leur même défense invincible. Les artisans ruraux ont le même discours. Ils se plaignent que le monde va trop vite, qu'ils ne trouvent plus de bons bois ou de bons outils. Leur credo, c'est « il faut faire aimer et connaître la terre nourricière ». Cet amour du passé, de la tradition, s'ajoutant à son catholicisme conservateur, cette passion pour la terre nourricière, cette croyance en la nécessité rédemptrice de la peine, de la souffrance des hommes, va le conduire à se rapprocher des idées de Maurras et à collaborer à des revues maurrassiennes. Il fera plus. Il va se compromettre avec le maréchal Pétain. Voici l'événement relaté dans le numéro 5, de la revue Notre Province d'août 1942. En juin 1941, la ville de Saint-Léonard a reçu le maréchal Pétain. Un émail, réalisé par Paul Bonneau, représentant Saint-Léonard délivrant un couple de captifs, a été offert au chef de l'État français. Au verso de la plaque de cuivre figure un poème écrit par Charles Sylvestre. C'est un sonnet intitulé L'épreuve du feu. Nous ne voulons nullement dédouaner Charles Sylvestre, mais reconnaissons que bien d'autres personnalités limousines avaient répondu au désir du maréchal, en participant par exemple à la création de l'Académie du Limousin, soutenue entre autres par les frères Jérôme et Jean Tarot de Saint-Junien, l'universitaire Mario Roch, Firmin Rose ou le médecin Léon Binet.
Que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants.
S'il ne cesse de nous vanter les vertus traditionnelles de l'ancienne France, on verra que Charles Sylvestre n'est pas toujours aussi opposé que ça à la modernité. Dans nombre de ses romans, la TSF, la télégraphie sans fil, la radio, instrument de la modernité s'il en est, joue un rôle important. Dans Le Voyage rustique, par exemple, nous partirons avec lui à la recherche d'un tracteur. En fait, Charles Sylvestre n'a pas vécu enfermé dans le passé. Au contraire, c'est un bon vivant. Claudine Servelle nous dit « C'est un homme très corpulent, capable de stupéfier ses amis par ses exploits de gastronome. » Elle ajoute que s'il se plaît dans sa retraite laborieuse, il en sort souvent. Et que son goût marqué pour la musique apparaît souvent dans ses livres, quand il nous parle de l'apparition de la TSF dans les villages qui transforme l'existence des paysans en rompant l'isolement. Finalement, Charles Sylvestre, surtout à partir de la publication de son roman « La prairie et la flamme » en 1929, finira par reconnaître que tout n'est pas idyllique à la campagne. Et dans nombre de ses romans, il sera traité de l'ennui, de l'amour de l'argent, de l'avarice, de l'indifférence, des mariages arrangés, de la cruauté, de la traîtrise, de la perfidie, de la mesquinerie, du vice, de la descente aux enfers, qui caractérise aussi la vie en vase clos de la campagne. Son dernier roman s'intitule Manoir. Commencé dès 1938, il ne sera terminé qu'en 1944. Écoutons ce qu'en dit Claudine Servelle. Avec Manoir, Sylvestre revient au roman historique, mais cette fois il choisit le Moyen-Âge, le règne de Saint-Louis. L'action débute en 1236 au manoir de Porra, en Basse-Marche. Ce roman a été également considéré comme une allégorie de la guerre car on y voit à l'œuvre les puissances du mal. C'est une histoire d'amour, de haine, de complot, de meurtre. C'est aussi une histoire où le héros, Galerand, apprend qu'il a la lèpre et le jeune homme se retirera alors dans la forêt avec les autres lépreux. Ce livre, le dernier, a parfois été qualifié de « testament ». Le choix du prénom de Galerand fait penser à Galahad, celui de Viviane évoque aussi Chrétien de Troyes, le cycle arthurien, les chevaliers de la table ronde et la quête du Graal. Depuis sa retraite à l'abbaye de Ligugé, 20 ans plus tôt, Charles Sylvestre était peut-être en quête d'un idéal, d'une perfection qui n'est sans doute pas de ce monde.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Charles Sylvestre s'attache au vrai tout entier. Il observe et dépasse les apparences. Il joint au don de romancier ceux du poète. Il sait découvrir l'invisible derrière le visible, la grandeur derrière la servitude. Chez lui, ni optimisme, ni pessimisme, mais une synthèse qui admet les extrêmes et non les outrances, qui accueille l'héroïsme et même la sainteté comme la bassesse. C'est là l'opinion de Monsieur Parvilez, un critique littéraire à propos de Charles Sylvestre. Claudine Servelle d'ajouter, Charles Sylvestre laisse une œuvre variée, riche, poétique, un savoureux mélange de cruelle observation humaine et de satire impitoyable, de magnifique poésie, une sorte de féerie du réel. Même si certains de ses romans ont vieilli, l'écriture reste toujours exceptionnelle. Nos auditeurs trouveront dans ses chroniques le voyage rustique, pleine terre, au soleil des saisons, animaux familiers et farouches, des témoignages précis à l'écriture à la fois simple et riche, des travaux, des saisons et des jours, dans la basse marche de la première moitié du XXe siècle.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à Charles Sylvestre, le romancier du voyage rustique. Pour les textes, nous avons fait appel à Charles Sylvestre lui-même, à Claudine Servelle, à Henri Pourrat, à Raymond Détivaux. Pour les accompagnements musicaux, nous avons utilisé Schubert, Arthur Crumiot, les chansons historiques de France, les groupes Grand-mère et Soufflet, Maluzerne, Terra Maïré et le chanteur Charles Trenet que nous écoutons en ce moment.
Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.
Nous vous rappelons que la réalisation technique de nos émissions hebdomadaires est assurée par Christophe Gourcerolle. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que je consacrerai aux rameaux et aux cornues. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.